RCF.
h 10, vous êtes sur RCF et c'est l'heure du 18-19 en région. Nous retrouvons Jean-Pierre Benoît.
Bonsoir à tous, c'est le magazine régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. À 18h30, on retrouvera Alexis Claudresse en direct avec nous pour le journal régional. Nos invités, on va déjà vous les présenter, mais vous les connaissez. Ils sont régulièrement avec nous le mercredi. Fernand Tavares, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît.
On va rappeler dans quelques instants un peu l'actualité. On la développera tout à l'heure. Il sera question beaucoup d'Israël, aussi de d'Arras encore et des conséquences.
Et de Gaza.
Puis, et de Gaza, avec aussi une loi sur l'immigration en cours d'examen. Et puis, bien sûr, Robert Roverger qui est avec nous tous les mercredis. Robert, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre
Mais,
Benoît.
Moi, je peux aussi dire Robert, bonsoir. Et Jean-Pierre Benoît, bonsoir aussi. Alors, votre chronique, c'est en un mot. Et aujourd'hui, le mot qui est à l'honneur, c'est le mot
diplomatie.
Diplomatie, alors on va y revenir. Parmi les invités ce soir, nous aurons Didier Billon, le maire de Sedan, dans l'émission « Votre maire nous parle ». Il sera avec nous aux alentours de 18h20. Et puis nous retrouverons également tout à l'heure nos amis de RCF Cœur de Champagne. Et puis nous retrouverons bien évidemment Fernand qui reviendra sur l'actualité. D'un mot, vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénat cet après-midi?
Tout à fait. Alors évidemment, entre ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, où il y avait également des questions au gouvernement, et aujourd'hui, est intervenu ce bombardement sur l'hôpital de Gaza, avec un maximum de gens tués, des médecins, des infirmières, des civils. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Il y a également la présence du président américain en Israël dans ce contexte. Aujourd'hui, au Sénat, la première ministre a pris la parole, comme elle l'a pris hier à l'Assemblée nationale, mais dans un contexte particulier, celui dont je viens de lui parler. Et les mots sont un petit peu différents. Certes, elle affirme toujours le droit d'Israël à se défendre, mais, il y a un oui, mais, il faut respecter le droit international. Ça, c'est la suite de ce qui s'est passé à l'hôpital de Gaza. Les hôpitaux, a dit la première ministre, sont protégés par le droit humanitaire. Le droit international humanitaire. Les civils ne doivent pas être pris pour cible, a-t-elle dit.
Mais
d'autre part, ce qu'on reproche à la France, c'est de soutenir X ou Y. Elle réaffirme que, auprès de la population de Gaza, la France va fournir une aide de 10 millions d'euros qui ont été votés. Voilà ce qui a été décidé ce soir. Et d'autre part, on apprend également qu'Israël a accepté, à la demande du président des États-Unis, d'ouvrir un couloir humanitaire dans les heures qui viennent.
Et on n'est pas sûr que ce soit, et peut-être même le contraire, que ce soit Israël qui ait attaqué cet hôpital à Gaza. Certains disent que, vu les types d'armes employées, ce serait plutôt des roquettes venant même, peut-être même du Hamas.
Et ce qu'a dit Elisabeth Borne également, c'est que les auteurs doivent être identifiés, et les auteurs, quels qu'ils soient, je cite les mots de la première ministre, devront rendre des comptes, quels qu'ils soient. C'est extrêmement important. Alors maintenant, ce soir, les Américains, le président américain est revenu sur cette affaire en disant « J'ai des preuves que ce ne sont pas les Israéliens qui ont attaqué ou bombardé ou envoyé des roquettes sur cet hôpital ». Voilà ce qu'on entend ce soir. Maintenant, on verra dans une heure ce que ça donnera. Néanmoins, et bien réaffirmer que la population civile doit être prise en compte à Gaza comme ailleurs. Et d'autre part aussi, il faut faire très attention parce que les réactions dans les pays environnants sont très 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 diverses et variées. Et il y a une menace certaine d'escalade, et c'est ce que voudraient éviter les États-Unis, parce que si vraiment il y a une escalade et qu'à nouveau Israël est attaqué, les Américains ne pourront pas rester les bras ballants.
Merci Fernand, on se retrouve dans une poignée de minutes et à 18h15, c'est l'occasion pour nous de retrouver Robert Roverger. Robert, rebonsoir cette fois.
Rebonsoir Jean-Pierre.
Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un mot qui fait toujours souvent appel à l'actualité, le mot diplomatie. Alors, qu'évoque aujourd'hui ce mot?
Bien, le mot diplomatie évoque deux notions distinctes. Dans son sens général, dirons-nous, il évoque une activité de négociation, de discussion et, si possible, d'apaisement.
Donc, on peut dire de recherche de la paix, d'une certaine façon.
Exactement.
Alors, quelle est l'autre notion?
Alors, au sens politique que nous évoquerons aujourd'hui, il évoque une institution qui comprend l'ensemble des diplomates.
Alors, sait-on depuis quand ce mot est devenu courant?
Eh bien, bien que les discussions politiques entre États, parallèlement, hélas, aux violences réciproques appelées guerres, soient aussi anciennes que l'histoire, peut-être même que l'humanité, on ne parle de diplomatie et de diplomate qu'à partir de 1789.
Est-ce à dire que tout s'est passé comme s'il avait fallu faire disparaître le pouvoir absolu pour discuter entre États?
Bien sûr que non, mais il n'en reste pas moins que l'idée d'une activité politique pacifique portant sur les relations internationales apparaît avec la fin du pouvoir absolu. Cela dit, on employait déjà l'adjectif diplomatique, adjectif qui est issu du mot diplôme.
Alors justement, à quelle époque ce terme était apparu?
Environ 80 ans avant la Révolution.
Alors son étymologie, ça vient d'où ça, diplomatie?
Diplomatique vient du grec diploma.
Qui veut dire?
Qui signifie, alors c'est une tablette ou un papier plié en deux, d'où le préfixe « di ».
Alors ça mérite quand même une petite explication complémentaire.
Si vous voulez, les documents officiels comportant depuis des siècles des éléments confidentiels, pour ne pas dire top secret, ont pensé qu'il valait mieux replier la tablette ou le parchemin ou le papier, au moins en deux, d'où le préfixe « dit », je l'ai dit, avant de le transmettre.
Alors quels étaient alors ces documents officiels, ce qu'on pourrait appeler ces diplômes d'une certaine façon?
Il s'agissait d'actes écrits émanant d'une autorité souveraine ou d'un organisme officiel. Ces écrits, ces diplômes donc, conférés ou attestés d'un droit, par exemple par une patente ou une bulle. Ils attestaient d'un titre, par exemple un titre nobiliaire ou professionnel, ou bien d'un honneur, par exemple d'une décoration ou d'un prix, ou même d'un grade universitaire.
Alors avant les diplômes que nous connaissons, Robert, Verger, et des diplômes qui ont un tout autre sens et auxquels aspire d'ailleurs la jeunesse d'aujourd'hui, comment étaient officialisées les relations entre États? Autrement dit, avant de passer à la diplomatie, quelles étaient les voies de la diplomatique?
Entre États, on utilisait par exemple des chartes, des actes, des bulles papales ou encore des traités.
Sans oublier peut-être les résolutions.
Oui, des résolutions qui aujourd'hui, hélas, sont souvent synonymes dans l'esprit de trop nombreux dirigeants politiques d'ultimatum, qui est la forme ultime, bien sûr, ultimatum, à leurs yeux, forme de diplomatie avant la guerre. Alors je dis aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, trois fois hélas.
Vous avez un exemple concret là-dessus?
Il est difficile d'en choisir un, mais enfin, on peut prendre par exemple dans l'histoire récente l'exemple du président George W. Bush.
Président des États-Unis, il faut le rappeler, de 2001 à 2009, pour ceux qui l'auraient oublié.
Oui, bien qu'il ne soit pas le seul, loin de là hélas, il est un bon exemple du dirigeant pour qui résolution est synonyme d'ultimatum. Alors je m'explique, parce qu'à ses yeux et à ceux de son entourage, la diplomatie, c'est une affaire de lâche, c'est une affaire de trouillard, si vous me le permettez, alors que la volonté de guerre est un signe indiscutable de courage et de responsabilité.
Et d'ailleurs, ce sera la guerre en Irak qui débutera en 2003, soit 2 ans après son élection à la Maison Blanche.
Oui, guerre qui se terminera, comme vous le savez, par un fiasco en 2011 sous la présidence de Barack Obama.
Nous avons donc de nombreux exemples d'une telle façon de voir la diplomatie encore aujourd'hui.
Oh que oui, si l'on pense aux nombreux dictateurs soi-disant élus démocratiquement. Mais répétons-le, vu que l'humanité connaît les guerres depuis la nuit des temps, la diplomatie en tant que recherche de la paix ne semble pas malheureusement être la solution à nos problèmes, même si elle devrait être bien sûr dans nos principales préoccupations.
Alors, est-ce que vous avez, parce que souvent, vous avez des citations. Alors, je vais vous en demander deux ou trois citations sur la diplomatie, Robert.
Oui, si vous voulez. Au fond, pour la diplomatie, écrivait Georges Courteline, le dernier mot de l'astuce est de dire la vérité quand on croit qu'il ne la dit pas et de ne pas la dire quand on croit qu'il l'a dit.
Voilà, et là, attendez, on est en fin de journée, mais on a tout compris quand même.
Hein. Oui, ça donne.
Le dernier mot de l'astuce, c'est de dire la vérité quand on croit qu'il ne la dit pas, et de ne pas la dire quand on croit qu'il la dit. Oui, c'est-à-dire, bon, il faut...
Oui,
c'est... Voilà, c'est un peu le contraire.
Faut jongler.
Alors, aux yeux de Napoléon.
Alors, aux yeux de Napoléon, bien, la diplomatie, c'est la police en grand costume.
Alors, vous êtes aussi une romancière.
Oui, Muriel Barbery, qui constate que, je la cite encore, « la diplomatie échoue toujours lorsque le rapport de force est équilibré. On n'a jamais vu, ajoute-t-elle, un plus fort accepter les propositions diplomatiques de l'autre. »
Alors, naturellement, c'est toujours la même question à la fin de votre chronique, Robert Auverger. Robert, la semaine prochaine...
Bien... Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons d'un mot encore très souvent prononcé, nous parlerons d'Europe.
D'Europe, et il faut rappeler que l'année prochaine, il y a des élections européennes.
Voilà.
Merci en tout cas, Robert Auverger, avec nous le mercredi, et nous aurons l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine, et puis il y a des rediffusions, bien sûr, dans la semaine. À la semaine prochaine, Robert,
avec
à bientôt.
Avec plaisir,
au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
On va vous retrouver dans un instant, Fernand Tavares. Nous allons vous retrouver pour commenter un peu ce qui s'est passé au Sénat et pour revenir également sur ce qui s'est passé aussi avec les déclarations de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Mais tout de suite, on va faire preuve d'esprit civique. On va retrouver notre invité, mon invité dans l'émission « Votre maire nous parle ». C'était aujourd'hui Didier Herbillon, le maire de Sedan.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, Sedan reprend des couleurs. On l'avait vu et on va en dire quand même un petit mot sur le fait que le château fort de Sedan a été primé comme monument préféré des Français. Vous déjà, vous mesurez des petits échos? Vous avez eu des échos ici ou là de cette bonne nouvelle?
D'abord, on a organisé une remise, enfin une pose officielle de la plaque du monument préféré des Français sur le château fort. Et on avait invité tous les Sedanais. Et ce fut devant le château fort une très belle soirée, très fréquentée, qui prouvait vraiment qu'il y avait une fierté, si vous voulez, pour les Sedanais, mais aussi pour les Jardinais. Il y avait des gens qui venaient de tout le département, qui sont venus de tout le département. Donc on voit qu'il y a un impact psychologique sur le moral des Sedanais et des Jardinais qui est vraiment très très positif. Donc ça, c'est le premier constat, si vous voulez. Il y en a un autre qui est plus pragmatique, mais très important pour la ville. Sur le seul mois de septembre, eh bien, on a doublé la fréquentation par rapport à celle de l'année dernière.
Ça, vous ce voyez, sont vraiment des bons signes. Et puis, ça peut se développer, ça va certainement se développer. Comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Didier Herbillon, il y a aussi, j'ai entendu dire, mais peut-être suis-je mal informé, l'arrivée d'entreprises dans la région de Sedan qui est annoncée. Je crois que Intelsia, si je me prononce bien, est dans la course. Ça serait quand même une excellente nouvelle pour le Sedanais et pour Sedan,
alors,
bien sûr.
C'est une excellente nouvelle. Hein. Intelsia, après son installation à Charleroi, il vient aussi à Sedan. 200 emplois seront créés. Il y en a déjà 50 d'ailleurs qui ont été créés dans un site historique magnifique qui s'appelle le Palais des Princes, tout près du château fort. Et Ardennes Métropole a donc acquis un espace important en plein cœur de la ville pour y aménager les bureaux qui seront ensuite loués à la société Intelsia. Donc les 200 emplois vont arriver sur la ville avant la fin de cette année, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça, parce que par exemple Burger King vient de s'installer, alors ça paraît pas, mais c'est 50 équivalents temps plein qui viennent aussi d'arriver. Un hôtel 3 étoiles B&B va se construire également à l'entrée de notre ville. Bref, un faisceau de bonnes nouvelles, après l'installation de Génimat d'ailleurs, qui là encore vient d'inaugurer ses locaux sur la ville de Sedan, plusieurs milliers de mètres carrés. Bref, oui, la ville redevient attractive, ça je le confirme et je m'en réjouis bien évidemment.
Et puis sans compter que depuis quelques années déjà, vous avez redonné un petit peu de couleur aussi, de rénovation dans le centre-ville, parce que aussi ça c'est important de voir qu'il y a, j'allais dire, un environnement qui est quand même plus agréable. C'est bon, il fait bon se balader à Sedan, il y a le château, il y a, bon voilà.
Oui, tout à fait, ce fut un travail de longue haleine qui a pris plusieurs années. Aujourd'hui, on arrive un peu à son terme, mais ça a requalifié totalement le centre-ville. On lui a redonné une fonction de convivialité, une fonction de lieu d'animation. Tout cela fait qu'aujourd'hui, la ville, effectivement, rebondit. On vient d'ailleurs d'inaugurer en plein cœur de ville un marché couvert qui est vraiment, je pense, ce qui fait l'unanimité, hein, on peut le dire sans forfanterie aucune, et qui rebooste aussi la fréquentation du cœur de ville tous les mercredis et les samedis matins. Donc il y a un faisceau effectivement intéressant qui d'ailleurs se traduit aussi par une augmentation de la population. Nous sommes la seule ville des Ardennes à avoir notre population augmentée, donc tout cela, je crois, vient un peu couronner, si vous voulez, des années et des années de travail, dont on avait hâte d'ailleurs de pouvoir mesurer un peu les effets, parce que pour un élu, c'est toujours un peu stressant de ne pas toucher au fond le bénéfice des politiques engagées. C'est même d'ailleurs parfois une remise en cause qui est nécessaire quand on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas tout à fait comme on le souhaitait. Ben aujourd'hui, il y a un frémissement incontestablement sur la ville, et j'espère que ce frémissement deviendra une dynamique plus forte encore dans les mois et dans les années qui viennent.
Quand vous parlez d'une augmentation de population à Sedan, monsieur le maire, on peut aussi se dire que peut-être aussi le prix de l'immobilier à Sedan est tout de même plus abordable que dans de nombreux endroits. C'est peut-être un peu plus cher que la campagne, mais tout de même, il y a quand même des possibilités à Sedan. Les gens qui veulent peut-être être propriétaires, bon, il y a le logement locatif, bien sûr, mais pouvoir avoir un logement en ville, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui.
Non, bien sûr, il est évident que le prix de l'immobilier est attractif par rapport à d'autres grandes villes, enfin, des villes plus grandes d'ailleurs, comme Reims par exemple. C'est un atout, mais ce qui, je pense, a été aussi très important pour Sedan, c'est la disparition de la taxe d'habitation, qui fait que ça redevient compétitif pour un couple, un jeune couple, que d'investir dans son logement ou dans sa maison sur la ville de Sedan. Beaucoup de maires ont critiqué cette mesure en disant que c'était au fond un levier fiscal dont on ne disposerait plus, certes. Et il n'empêche que moi j'ai toujours considéré que c'était plutôt un atout, et je crois que ça se confirme.
Il faut dire aussi que, effectivement, même si les taux d'intérêt pour ceux qui veulent acheter sont quand même assez élevé en ce moment, c'est un moment peut-être un peu difficile. Tout de même, pour des jeunes, c'est quand même une possibilité, s'ils travaillent un petit peu tous les deux, de pouvoir s'engager dans un achat qui ne soit pas hors de prix. Parce que vous avez mentionné Reims, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de lieux en France où les tarifs deviennent prohibitifs.
Oui, habiter un centre-ville aujourd'hui, ça devient fou. On le sait, c'est encore possible à Sedan à des tarifs avantageux. Alors c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement actuellement, hein, lié aux taux d'intérêt qui ont explosé. On est aux alentours de 4,5 aujourd'hui, ça n'est pas favorable. Mais bon an, mal an, si on fait la balance entre le prix d'achat et puis l'emprunt à contracter, je crois qu'un couple qui travaille à deux peut légitimement et sans grande difficulté, je pense, se rendre propriétaire ici. On n'a pas connu les phénomènes que connaissent un certain nombre de villes, de boboisation des centres-villes ou de gentrification, comme on dit en termes plus scientifiques.
On vous remercie, bien sûr, il nous reste une minute avant de nous quitter. On pose la question généralement à tous les maires, mais on vous l'avait déjà posée il y a quelques semaines. On a l'impression, bon, vous êtes passionné depuis toujours de votre ville de Sedan, mais vous êtes aussi, on peut dire, un maire heureux, parce que vous voyez en ce moment les réalisations des projets que vous aviez commencé à mettre en place. Et ça, c'est quand même très encourageant pour un maire.
Oui, c'est encourageant après des années et des années où je me suis interrogé sur le bien fondé des politiques que j'avais proposées à mes équipes. Aujourd'hui, effectivement, je suis plus heureux qu'hier. Alors, plus heureux qu'hier, mais prudent. C'est-à-dire que...
Puis moins heureux que demain, parce que...
Je reste prudent parce que rien n'est gagné, vous savez.
Rien n'est gagné.
C'est toujours difficile, il ne faut pas baisser la garde, il faut toujours faire en sorte de proposer des projets d'avenir qui soient porteurs, effectivement, de durée. Or, certes, il y a une embellie, elle est incontestable et incontestée, mais elle est jeune, cette embellie. On peut dire qu'il y a 3 ans, si vous voulez, que ça commence à se faire sentir. Mais 3 ans, c'est peu. Et c'est pas ce qui permet de dire aujourd'hui que la ville est repartie sur de très très bonnes bases. C'est encourageant, mais ça doit nous inviter à nous battre encore.
Merci en tout cas Didier Herbillon, maire de Sedan, vice-président d'Ardennes Métropole, et puis à bientôt sur RCF. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
On aura l'occasion de retrouver des maires. Les maires vous parlent tous les midis. D'ailleurs, demain, ce sera François Mourat, maire de Vandeuil et aussi vice-président d'Ardennes Métropole. Il est pratiquement...
Jean-Pierre, oui. Du Grand Reims, de la communauté du Grand Reims, François
oui.
Mourat.
Oui,
pas l'Ardennes Métropole.
Oui, c'est pas l'Ardennes Métropole. Mais ça viendra. Et je pense qu'il s'ardennise un petit peu. En tout cas, il est 18h30. C'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz qui est en direct avec nous.
L'occasion de vous dire bonjour aussi les titres de ce mercredi 18 octobre 2023. La campagne annuelle de vaccination contre la grippe s'est ouverte hier en France avec une nouveauté par rapport aux années précédentes, l'ouverture à tous les enfants de plus de 2 ans. L'UIMM forme des jeunes qui choisissent la voie de l'industrie mais peine à les attirer. Elle mise sur la transmission en proposant au personnel senior de s'engager dans la formation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Alors qu'hier soir, Jean-Pierre, on présentait les menaces reçues par mail par la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne en début de matinée, ce mardi, on a appris dans la soirée que la mairie de Reims a également été visée par ces mêmes menaces contre les biens et les personnes à la gloire d'Allah, selon le même procédé dès lundi soir. Contrairement à la station TV qui avait sécurisé le site avec de nombreux policiers campés sur place, bien visibles, du côté de la municipalité, on a privilégié une sécurisation discrète. Dans un contexte international particulier, l'université de Reims-Champagne-Ardennes a annoncé redoubler de vigilance. Par ailleurs, dans les Ardennes, la préfecture a annoncé renforcer les contrôles avec la frontière belge. Certainement que vous aurez l'occasion d'y revenir d'ici quelques minutes avec Fernand Tavares, qui sera notre invité juste après ce journal régional. Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré le 2 octobre dernier, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe s'est ouverte hier en France avec une nouveauté cette année, les enfants de 2 à 17 ans peuvent aussi se faire vacciner contre la grippe. Pour le diacre et aumônier des hôpitaux de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, Pierre Paget, le vaccin est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le virus.
Depuis plus de 2 mois, nous avons de nouveau des cas de Covid dans les hôpitaux. Ça augmente régulièrement. Alors, c'est pas l'explosion, hein, comme ça l'a été il y a 3 ans, mais tous les jours, il y a des évolutions. Nous avons eu 7 cas positifs quotidiens. Il faut pas non plus paniquer comme on a pu le faire. C'est pas une vague qui nous submerge cette fois-ci. On a la chance d'avoir 445 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin et 440 000 qui ont été complètement vaccinées. Et à partir de là, ça protège tout le monde. Et encore des gens qu'il faut convaincre, qu'il faut qu'ils se fassent vacciner parce que c'est nécessaire. C'est pas pour penser à soi, c'est pour penser aux autres. L'épidémie aussi de grippe, parce qu'on a tendance à l'ignorer. Il faut une moyenne de 1 million de consultations de médecine en ville, plus de 20 000 hospitalisations et environ 9 000 décès concentrés sur quelques semaines l'année dernière, en 2022. Sont concernés surtout les adultes de 65 ans et plus et les moins de 2 ans qui nécessitent une hospitalisation, y compris en réanimation. La grippe, on a tendance à l'oublier par rapport au Covid, mais ce sont deux virus qui nous agressent et si on ne fait pas attention, on en meurt.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Les chiffres communiqués par Pierre Paget représentent le territoire marnais, les deux virus circulant sur la même période automnale. Il est recommandé de se vacciner contre ces deux virus différents afin de limiter les consultations chez le professionnel qui effectuera les injections. Il est conseillé d'effectuer les vaccinations le même jour en 2 sites distincts. Par exemple, un vaccin dans chaque bras le même jour. La campagne va s'étendre jusqu'à la fin du mois de janvier. Quelques jours après la mention au Guide Michelin, le restaurant inclusif et éco-responsable L'Extra n'en finit plus de glaner les récompenses. Ils ont remporté le concours Cap on the Cook organisé par Almea Formation. Rendez-vous désormais le 4 décembre prochain à Paris pour la finale nationale. Le restaurant Rémois se trouvera aux côtés de restaurants situés à Paris, Lyon et Toulouse. Des concurrents pour cette table à succès rémoise. Il y a quelques jours, on présentait une conjoncture compliquée pour notre industrie locale avec le président de l'Union des industries des métiers de la métallurgie, Christian Breton. En parallèle, pour attirer de nouvelles personnes, l'UIMM a développé en Champagne-Ardenne son pôle formation. Le président de celui-ci, Jean-Michel Cateau, constate une pénurie à plusieurs étages.
Alors pénurie, elle se passe à deux niveaux. Au niveau de nos jeunes, dont on a besoin et que l'on souhaite amener au niveau de nos entreprises. Aujourd'hui, on sent un désintérêt par rapport à ces métiers. Donc il faut retravailler la motivation avant même de travailler la performance industrielle de chacun. Également pénurie au niveau des moyens financiers qui sont alloués aujourd'hui à notre organisation de formation. On reste une entité privée qui fonctionne et qui a besoin d'un certain nombre ou de subventions et d'accompagnements qui sont en diminution régulière depuis plusieurs années. Donc on a aujourd'hui besoin d'adapter nos ressources aux besoins qui se sont présentés chez nous aujourd'hui.
Aujourd'hui, le pôle formation, ce sont 200 personnes qui gravitent autour, plus de 1000 apprenants en formation initiale et autant de personnes en reconversion professionnelle. Pour professionnaliser ceux qui rejoignent l'industrie et valoriser les parcours, l'UMM Champagne-Ardenne fait le pari de la transmission avec des employés proches de la retraite qui partageraient leur savoir aux néophytes.
Alors cette transmission, elle est fondamentale et je pense que c'est également un problème sociétal. Si on ne transmet pas et si on n'a pas la mémoire de ce qui s'est fait, comment est-ce qu'on peut construire l'avenir? Le fait d'allonger la durée du travail pour arriver jusqu'à la retraite fait qu'on a des personnes qui arrivent en fin de carrière fatiguées par une vie de travail et pouvoir permettre à ces professionnels de se libérer un peu des tâches plus matérielles pour aller sur la transmission à des plus jeunes, on pense que ça peut les accompagner aussi jusqu'à l'âge où ils auront bien mérité de partir en retraite.
Jean-Michel Cateau, micro de RCF France-Ardennes. L'industrie, c'est aussi une image encore difficile à changer et à redynamiser. Pourtant, des efforts sont faits dans ce sens, à l'image de l'école ingénieur système réseau et cybersécurité qui vient d'ouvrir à Charleville-Mézières, que l'on vous présentait là aussi il y a quelques jours. C'était début octobre avec Sébastien Guenet, délégué général de l'UMM Champagne-Ardennes. Sport, basket, deuxième match d'Eurocup Women ce soir pour les Flammes Carolo. Déplacement en Espagne à Cadillaceux. Un premier choc dans cette compétition entre les deux favoris du groupe, coup d'envoi à 20h45. Hier soir, le Champagne Basket a poursuivi sa route en Coupe de France. Victoire 97-71 sur le parquet de Chartres. Direction les 16e de finale désormais. À 18h37, on s'intéresse à la météo avec Mélissa Tavares. Mélissa, bonsoir. Quelles sont les tendances pour ce jeudi ?
Bonsoir. Eh bien, malgré le ciel gris de cet après-midi, demain jeudi 19 octobre 2023, le soleil reviendra avec nous durant la moitié de la journée, malgré la présence de quelques nuages dans le ciel du Grand Est. Le matin, dans les Ardennes et la Haute-Marne, il fera beau avec de très belles éclaircies dans les villes telles que Rethel et Chaumont. Mais malgré cela, la pluie tombera principalement dans l'est de la Marne et dans tout le département dans l'Aube, comme à Fismes pour la Marne et à Romilly-sur-Seine pour l'Aube. Les thermomètres ne dépasseront pas la barre des 15 degrés pour les plus hautes températures matinales. L'après-midi, dans les Ardennes, la Marne, l'Aube et dans la Haute-Marne, dites au revoir au soleil et bonjour au temps pluvieux. La pluie prendra la main sur tous les départements de la Champagne-Ardenne. Les thermomètres afficheront au maximum les 20 degrés. Ce jeudi, nous fêterons les Renés. Alors, bonne fête à tous les Renés.
Merci Mélissa, Mélissa Tavares, et comme dans quelques instants notre invité est Fernand Tavares, on tient à dire que ce n'est pas un stage pistonné, vous n'avez aucun lien direct familial, peut-être par un de vos ancêtres lointains.
Même pas, parce que des Tavares c'est comme des Dupont et des Durand en France.
On est sûr de rien, on fera peut-être des tests, pardon. 18h38, ainsi se referme ce journal, le magazine régional continue tout de suite, Fernand Tavares avec Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières. Fernand Tavares est toujours avec nous. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur l'actualité du jour. C'est vrai que vous suivez particulièrement le mercredi les questions au gouvernement et surtout les débats au Sénat. Alors l'hôpital de Gaza a retenu vraiment l'attention hier et ça a changé par rapport au débat que vous avez suivi à l'Assemblée nationale.
Alors hier à l'Assemblée nationale, on était évidemment à fond sur l'affaire d'Arras, dont on a parlé également au Sénat aujourd'hui, mais en 24 heures, il s'est produit un autre événement dont vous venez de parler, c'est, j'allais dire, le bombardement ou l'explosion de l'hôpital de Gaza. Donc on en a parlé toute la journée, c'est un événement considérable, et la Première ministre, comme hier, est intervenue au Sénat pour avoir un langage tout à fait ciblé un peu différent en tenant compte cette fois de la population civile. Elle a commencé par réaffirmer qu'effectivement Israël avait le droit de se défendre, mais il y a maintenant un oui mais. Les populations civiles ne sont pas responsables et les populations civiles, conformément au droit international humanitaire, ne doivent pas être pris pour cible. De même, les hôpitaux, quels qu'ils soient, sont eux aussi protégés par le droit humanitaire. D'autre part, Mme Borne a également indiqué que les auteurs, quels qu'ils soient, s'ils sont identifiés, que ce soit israéliens ou Hamas, devront rendre des comptes à la communauté internationale et éventuellement comparaître pour crimes contre l'humanité.
D'ailleurs, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, il y a quelques minutes, lorsque vous étiez en direct aux alentours de 18h10, Fernand, il est vrai qu'on ne connaît pas l'agresseur. On ne sait pas qui a lancé ces bombes ou ces roquettes sur l'hôpital.
Alors, on a un indice, mais qui est à prendre comme il doit être pris, c'est-à-dire avec le recul. Vous savez que le président des États-Unis, M. Biden, était en Israël aujourd'hui et qu'il a rencontré M. Netanyahou et qu'il va rencontrer également le président israélien. Qu'a dit M. Biden ? Ce matin, il s'interrogeait. Il dit, moi, d'après ce que j'ai entendu en Israël, Israël quand même ne peut pas avoir fait ça. Mais ce soir, le président des États-Unis est encore plus clair. Il dit détenir des preuves que, en aucun cas, Israël n'est responsable de ce, entre guillemets, bombardement. Alors qui ? Ça, point d'interrogation. Pour en revenir aux populations civiles, il y a quand même autre chose qui est important, qui a été annoncé par la première ministre française ce soir, c'est que pour une fois, est affirmé haut et fort que la France vient au secours de la population civile de Gaza en débloquant dans un premier temps 10 millions d'euros. Et puis, puisque le président des États-Unis, nous en avons parlé il y a quelques instants, M. Biden a indiqué que Israël et M. Netanyahou étaient d'accord, à la demande des États-Unis, pour que s'ouvre enfin un couloir humanitaire qui vienne au secours de la population civile. Voilà les toutes dernières informations de la soirée. Enfin, la semaine prochaine, ça n'était pas prévu au programme, au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, un débat public va être organisé et il sera consacré exclusivement à la situation au Moyen-Orient et au Proche-Orient.
Donc vous avez noté l'évolution, enfin, on ne peut pas dire importante, mais dans les mots comptes de Madame Borne, entre hier et aujourd'hui, l'attentat, enfin, ce qui s'est passé à l'hôpital de Gaza doit expliquer en grande partie cette évolution.
Oui, et puis entrer dans une réflexion qui a déjà été entamé la semaine dernière. On parlait des civils, etc. Certains disaient oui, mais comprenez, le Hamas se mélange à la population civile, on ne sait pas qui et quoi. Bon, d'accord, mais résultat des opérations, il y a des centaines et des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont massacrés. Du côté israélien, nous l'oublions pas. Aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de Gaza, mais il ne faut pas oublier non plus que du côté israélien,
bien sûr,
c'est la même chose. Donc, les populations civiles des deux côtés ont payé un lourd tribut et continuent de payer un lourd tribut. Donc, le droit international est remis à la une. Et ce soir, entre parenthèses, au Conseil de sécurité de l'ONU, sur proposition d'une résolution en provenance du Brésil, la France adoptera cette résolution qui portera haut et fort la déclaration suivante, qu'il faut absolument que le droit international soit appliqué partout, que ce soit en Israël ou à Gaza, et que ceux qui violent ce droit international doivent être condamnés. Voilà, c'est une condamnation. C'est le supplément de la journée qui se termine sur cette affirmation.
Fernand Tavares, bien sûr, Gaza et les événements internationaux avec la venue de Joe Biden en Israël retiennent toute l'attention, puis les déclarations d'Elisabeth Borne. Mais il faut quand même rappeler que tout a démarré aussi, nous, dans notre pays, avec l'attentat d'Arras le 7 octobre, et que dans les médias, ça a pris quand même pas mal de grandes proportions.
Alors, effectivement.
Et alors, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, est revenu sur cette question aujourd'hui.
Oui, absolument. Alors, évidemment, il a peut-être un peu moins parlé qu'hier à l'Assemblée nationale, où ça, c'était vraiment à la une. Mais aujourd'hui, en dehors de la situation en Israël et de l'affaire de l'hôpital de Gaza, des questions ont été posées et les réponses ont été ciblées. On a senti un ministre de l'Éducation nationale qui voulait absolument sensibiliser toute les populations, j'ai bien toutes les populations, sur ce qui arrive dans le monde enseignant et dans les écoles. Les écoles, a dit le ministre, on est sur Radio RCF, mais on va pas faire non plus de jeu de mots, les écoles sont un lieu qui doit être sanctuarisé. Alors évidemment, on est bien au-delà de la religion. Hein. Sanctuarisé, ça veut dire ce que ça veut dire en bon français, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas, c'est sacré. Donc, des problèmes ont été posés et se posent encore à la suite d'un nouvel attentat contre un enseignant. Gabriel Attal a expliqué aux uns et aux autres, dans un premier temps, évidemment, il faut soutenir les enseignants, il faut soutenir les familles des victimes, bien sûr, il faut venir au secours, entre guillemets, des élèves qui sont traumatisés. Alors déjà, les psychologues, des lieux d'écoute sont mis en place, et d'autre part, penser aussi à instaurer plus de sécurité à l'entrée des établissements scolaires, des lycées, des facultés, des collèges, etc. Ça fait un gros travail, évidemment, à venir. Et c'est très urgent parce que dans la tête des professeurs aujourd'hui, également des enfants, mais dans la tête des professeurs, aujourd'hui, quand on interroge les professeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Vous vous rendez compte? Face à ce qui se passe et à tous ces attentats, un professeur sur deux dit que dans sa réflexion, il s'auto-censure. Autrement dit, c'est grave. Ça veut dire qu'il a envie de dire des choses utiles, et bien qu'il s'en prive parce qu'il a peur ou il craint que ça ait des retombées sur sa propre vie comme sur celle de ses élèves.
Est-ce que le ministre de l'Éducation est revenu sur des questions qu'il met souvent en avant concernant l'instruction civique ou la formation des futurs enseignants?
Absolument. Et aujourd'hui, on a entendu quand même une chose assez particulière. Il dit, bon, il faut remettre l'instruction civique à la une. La formation des enseignants doit être renforcée, complétée, quitte à revenir sur ce qui se passait dans le temps, puisqu'ils ont disparu, mais peut-être à rétablir les écoles normales d'instituteurs. C'est peut-être pas le mot qui convient, ça sera les écoles normales de professeurs, d'enseignement général ou les professeurs des collèges. Mais voilà, son idée, c'est que quand il y avait les écoles normales, il y a quelques dizaines d'années, eh bien les instituteurs, les enseignants étaient vraiment formés à l'instruction civique, à la défense d'une école laïque obligatoire, au fait que dans une école laïque, on ne parle pas de religion, on ne fait pas de prosélytisme, on enseigne, on écoute et on a de la tolérance les uns envers les autres. C'est ça qu'il entend rétablir le plus vite possible, mais vous pensez qu'il faudra des mois et des mois dans le contexte actuel. Toujours est-il que le monde de l'enseignement, le rôle du ministre de l'Éducation nationale, c'est devenu quelque chose d'assez dramatique à l'heure où nous parlons, parce que tous les établissements scolaires, les universités et autres, tendent le dos. Hein, on voit bien qu'aujourd'hui, les uns et les autres, pour une raison ou pour une autre, que ce soit fondé ou pas fondé, on lance des appels téléphoniques, des menaces, etc., pour traumatiser. Prenons par exemple aussi ce qui se passe au château de Versailles, ça n'a rien à voir, mais enfin, château de Versailles, le musée du Louvre, ça continue. Donc il faut être prudent, parce que même si on croit que ce sont des blagues, entre guillemets, ça peut être dangereux parce qu'il ne suffit que d'une fois. Mais pour en venir aux établissements scolaires, le ministre de l'Éducation nationale est non seulement prêt, mais il ira partout où c'est nécessaire. C'est un homme jeune, dynamique, qui a de la volonté. Il veut à la fois prendre en main les enseignants, entre guillemets, leur redonner le moral, leur redonner un sens à leur vocation d'enseignant, et en même temps rassurer tant que faire se peut les parents, les familles qui sont tout autant traumatisées.
Alors il faut dire pour terminer, Fernand Tavares, que au Sénat, est-ce qu'on a discuté ou à l'Assemblée nationale de la fameuse loi sur l'immigration?
Oui, comme à l'Assemblée nationale hier. Alors aujourd'hui, évidemment, des questions ont été posées parce que c'est le Sénat qui examine ce projet de loi en ce moment. Et il est évident que ça tombe comme à gravelotte, que ce soit à droite ou à gauche. Par exemple, lorsqu'il y a des responsables d'attentats qui sont identifiés, qui sont mis en prison, qu'on doit reconduire dans leur pays, qu'on doit expulser, ça ne colle pas, dit-on, parce que entre l'exécutif et le législatif, il semble qu'il y ait un problème. Lorsque le législatif dit qu'il faut reconduire à la frontière dans telle et telle condition, le judiciaire dit « attendez, non, c'est pas tout à fait comme ça », puis les choses ne se font pas. Comme pour l'affaire de dramatique d'Arras. Cet homme aurait dû être raccompagné à la frontière et quitter le territoire français. Donc ça va être renforcé. Le ministre de l'Intérieur a demandé un appui sans faille des uns et des autres, de la droite comme de la gauche, pour qu'on lui donne les moyens législatifs de faire en sorte qu'une fois que le droit aura été prononcé, une fois que la loi aura été édictée, la nouvelle loi, elle soit appliquée et qu'il n'y ait pas des appels incessants ou des rappels incessants d'associations qui font leur travail, c'est vrai, mais qui ne font pas de différence ou pas suffisamment de différence par rapport à ce qui vient de se passer. Et il faudra bien appliquer. Et ça va pas être facile d'accompagner les gens dans leur pays.
Pour terminer, en 30 secondes, Fernand, le budget, on n'en parle plus, mais le budget, bon, comme d'habitude, puisque c'est une loi, si on demande le 40... On a demandé le 49.3 ?
Ça y est, encore ce soir... La première ministre à l'Assemblée nationale a ressorti le 49.3 pour la partie recette du budget 2024. Alors, vous allez me dire encore le 49.3. Oui, je répète une fois encore que pour les lois économiques, les lois sociales, le 49.3 n'est pas limité. Il peut être utilisé autant de fois qu'ils le veulent, le gouvernement et les ministres. Alors évidemment, résultat des courses ce soir. 49.3 à nouveau pour la partie recette du budget de la France pour 2024. Et à nouveau, la France insoumise, qu'est-ce qu'elle fait ? Motion de censure.
Merci Fernand. Fernand Tavares, qui est un observateur avisé, journaliste sur les, en particulier les débats à l'Assemblée. À la semaine prochaine, Fernand.
À la semaine prochaine.
Le 18-19 sur RCF.
Sans plus attendre, on va retrouver Marc Besancenet, directeur du lycée Jean 23 de Reims. Marc Besancenet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le directeur du lycée Jean 23 de Reims et vous lancez un projet exceptionnel qui a pour nom le projet Kilimandjaro avec un slogan « On a tous une montagne à gravir ». De quoi s'agit-il ?
Merci Jean-Pierre. Effectivement, c'est un projet qu'on lance cette année pour cet été. On va partir en juillet 2024 pour atteindre le sommet du Kilimandjaro. Mais pas avec n'importe qui. L'idée, le défi en fait de ce projet, c'est d'amener une jeune, une lycéenne, Lise, qui est porteuse d'handicap, elle est unijambiste, qui est élève au lycée Jean 23, Saint-Jean 23, qui est élève en première. Et en fait, cette jeune qui est donc voilà unijambiste, on va l'amener, elle va marcher jusqu'en haut, jusqu'au sommet du Kilimandjaro.
Et toute la communauté éducative va se mobiliser parce qu'on a tous une montagne à gravir. C'est un peu la démarche.
Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de montrer que tout est faisable, quelles que soient effectivement nos capacités. C'était montrer que rien n'était impossible. Et du coup, il y a effectivement toute une communauté qui est en mouvement derrière. Des jeunes qui vont monter, qui vont l'accompagner dans la préparation et des jeunes qui vont aussi monter avec elle jusqu'en haut. Et puis, toute une communauté en mouvement.
Marc Besancenet, vous auriez pu dire, on gravit la montagne de Reims, hein, on gravit une colline dans le département des Ardennes, dans les boucles de Meuse. Mais le Kilimandjaro, pourquoi le Kilimandjaro ?
À Kilimandjaro, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a le côté mythique du Kilimandjaro.
Kilimandjaro, combien de mètres ? Ah,
alors, on est à juste en dessous de 5900 mètres, 5896
mètres. On frôle
mètres.
Les 6000 ?
On frôle les 6000 mètres, oui, effectivement. Donc, il y avait ce côté mythique, un sommet très élevé, c'est le toit de l'Afrique. Mais aussi, le choix, il s'est pas fait de façon au hasard non plus. C'est que, malgré la hauteur, ça reste une montagne qu'on va pouvoir accéder à pied.
C'est accessible.
C'est accessible. C'est pas la haute montagne en France. On n'est pas dans les Alpes. C'est pas de l'alpinisme. Ça reste un trek difficile, mais accessible en marchant, normalement, sans être encordé.
Alors, en juillet, vous partez. Vous emmenez combien de jeunes avec vous ?
Alors, on part avec 6 jeunes. Donc, il y a 6 jeunes qui sont dans l'aventure, qui vont porter d'ailleurs Lise toute l'année pour s'entraîner avec elle et l'accompagner. Et ces 6 jeunes ont bien compris que l'idée, c'est bien sûr que tout le monde arrive en haut du Kilimandjaro. Mais le but principal, c'est porter Lise, porter dans le sens psychologique du terme, mais la porter au plus haut pour qu'elle accède à ce sommet.
Alors, pour cette opération, vous vous êtes entouré de grands professionnels. En particulier, Arnaud Chasserie. Rappelez-nous qui est Arnaud Chasserie.
Alors, Arnaud Chasserie, effectivement des accompagnateurs, c'est un ami depuis plusieurs années. Arnaud Chasserie est un sportif de l'extrême, voilà, nageur de l'extrême.
Il a traversé la Manche avec Philippe Croizon.
C'est ça, il a traversé la Manche plusieurs fois, il a accompagné Philippe Croizon dans sa traversée de la Manche, c'est lui qui l'a accompagné, préparé et qui a fait la traversée avec lui.
Champion de France en eau glacée, mais c'est ça, du monde même, il a fait beaucoup de
compétitions. Il est recordman du monde actuellement de nage en eau glacée, le Ice Mile, il a relié les 5 continents à la nage, c'est quelqu'un qui voue sa vie au sport et à handicap. Il est actuellement en Amazonie avec des jeunes en situation d'handicap, en polyhandicapé, justement pour montrer qu'avec d'autres sens, on arrive à se débrouiller.
Et il va certainement venir à Jean 23 prochainement.
Il est déjà venu rencontrer l'équipe. Il reviendra à Jean 23. Nous ferons aussi une conférence prochainement avec lui, justement pour, par rapport à, voilà, au divorce record qu'il a tenu et comment et pourquoi.
Avec Jean 23, où vous allez monter une montagne à gravir, toute l'année, vous allez gravir cette montagne avec toute l'équipe de Jean 23, de Saint Jean 23.
Oui, on a tous une montagne à gravir, et ça c'est clair, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos ambitions. L'idée c'est de porter Lise encore plus haut, montrer qu'il n'y a pas de limite. Lise est une jeune avec un dynamisme extraordinaire.
Mais pour monter, elle, par exemple, elle est en cours actuellement au lycée Jean 23.
Oui.
Elle a quand même, bon, elle a une prothèse, elle arrive à se déplacer quand même, parce que vous nous faites peur, monter le Kilimandjaro avec une jambe, c'est un peu délicat quand même.
Elle est faite d'une prothèse dernière génération avec un genou robotisé, qui a aussi généré des contraintes techniques sur place parce qu'il a besoin d'être rechargé tous les jours. Cette jeune fait tous les sports qu'on va retrouver dans l'établissement au niveau
de l'équitation.
Elle fait de l'équitation, elle fait de la natation, elle fait du ski. Elle a une joie de vivre juste extraordinaire. Et voilà, elle mérite qu'on fasse tout ça pour elle. Et elle va devenir aussi une forme d'ambassadrice par rapport à l'handicap pour montrer aussi à tous les autres jeunes que tout est possible.
On peut aller loin, on peut frapper fort. Et puis, ça motive tous ces jeunes et puis tous les parents aussi. Tout le monde est dans l'embarcation.
C'est vraiment l'ensemble de la communauté qui est en dynamique par rapport à ça. Lorsqu'on a annoncé le projet en plénière au parents, mais c'était un moment magique, effectivement, les parents étaient déjà surpris, et puis...
D'ailleurs, tous les médias commencent à en parler, vous êtes en lien avec RTL, avec France 2, avec des tas de médias qui sont branchés là, hein, sur votre opération.
France Télévisions devrait nous suivre, les d'autres partenaires radio, mais RCF aussi, qui est un vrai partenaire local et national.
C'est vrai que les jeunes, ils ont été choisis comment, un peu partout, profils différents surtout peut-être.
Oui, le choix des jeunes n'était pas simple. Nous avons 690 élèves à Jean 23. C'est un gros lycée d'enseignement général. Et il a fallu effectivement choisir 10 jeunes. Il y a 10 jeunes qui sont sélectionnés.
10 jeunes.
Et 6 monteront.
Oui.
Parce que effectivement, il faut aussi accepter le fait qu'un puisse être malade ou un puisse être blessé et ne pas partir.
Bien sûr.
Donc voilà, il y a une réserve, comme on pourrait dire en sport.
Vous partez sur le plan technique aussi avec une joëlette. Alors rappelez-nous ce que c'était. Au cas où.
C'est ça. Lise marche, fait toute activité. Maintenant, il se pourrait que sa prothèse la blesse à un moment donné ou qu'elle soit fatiguée. Donc pour assurer, on part avec une joëlette. Une joëlette, c'est un fauteuil roulant avec une seule roue et 4 bras qui permet en fait de passer même sur des zones accidentées. Vous parliez tout à l'heure de la montagne de Reims. La montagne de Reims va être un bon terrain d'exercice.
Ah, vous allez vous entraîner là-bas.
Oui, on va s'entraîner parce qu'en fait, le dénivelé de la montagne de Reims ressemble peu prou à ce qu'on va pouvoir trouver sur place, à l'oxygène près.
Oui, parce que là, il y a un problème d'oxygène quand même.
Oui, l'hypoxie est une réalité. Chaque jeune va être testé, va faire un test à l'effort dans un caisson hypobar qui va simuler en fait l'altitude à 5000 mètres d'altitude. En test à l'effort.
Vous êtes même en lien avec Thomas Pesquet.
Alors, on est en lien avec Thomas Pesquet, avec Philippe Croison. Philippe Croison, qui accepte de nous parrainer dans cette belle aventure, qui nous fera l'honneur, dès qu'il passe à Reims, en tout cas, il nous fera l'honneur de passer à Jean 23 et de rencontrer les jeunes.
Alors ça, c'est extraordinaire. On va se mobiliser avec vous, on va en parler. Vous allez revenir régulièrement, Marc Besancenet, pour cette opération. C'est à partir du 10, vous êtes sur place, du 10 juillet.
Oui, c'est ça. On prend l'avion le 10. Le 11, nous serons dans une école parce qu'on a aussi le côté éducatif. Donc le 11, on sera sur place dans des écoles et dans des dispensaires afin de distribuer 500 kilos de fournitures scolaires qui seront distribuées par les élèves, qui leur permettra aussi de voir une autre réalité, la réalité d'une école africaine et d'un pays pauvre.
C'est exceptionnel, c'est formidable, c'est toute une aventure. On a tous une montagne à gravir. Bien, écoutez, Marc Besancenet, on vous encourage, on vous accompagne, on vous félicite. Et cette jeune fille, Lise, est quand même exceptionnelle dans cette opération.
Merci Jean-Pierre, et c'est vrai que Lise le mérite. Lise le mérite vraiment.
On aura l'occasion, bien sûr, de suivre cette opération avec Lise, qui a 16 ans, qui est née à Reims, qui est en classe de première au lycée Saint-Jean 23 à Reims. Il faut rappeler que au début de sa vie, à 6 mois d'ailleurs, elle a eu une maladie et on a dû l'amputer d'une jambe gauche au niveau de la cuisse. On aura l'occasion, bien sûr, de suivre cette opération qui aura lieu en juillet prochain. Et nous recevrons d'ailleurs Marc Besancenet le 8 novembre. Ce sera en direct le matin. À noter dans notre agenda que demain, notre invité sera
Pierre Cordier, député des Ardennes, qui sera avec nous sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. Et puis après-demain, ce sera Monseigneur Véteux qui sera en direct de Saint-Valfroid, où se déroule à l'heure actuelle une retraite pour les prêtres du diocèse. Eh bien, toute l'équipe de RCF vous remercie et puis on vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF avec dans quelques instants le journal national de 19h. À bientôt.